fois, nous avions essentiellement parlé de deux épisodes de cette ultime semaine, ce que je vous rappelle, nous sommes dans la semaine sainte, hein. Jésus est arrivé à Jérusalem le jour des rameaux, et là nous parcourons avec saint Marc les derniers jours de la vie du Seigneur avant le vendredi saint et avant la résurrection le dimanche de Pâques. Et nous avions vu tout spécialement deux épisodes, d'une part le figuier, desséché parce que maudit, ce figuier devant lequel Jésus et des apôtres étaient passés en allant de Béthanie au temple de Jérusalem, et nous avions mis cette malédiction du figuier en rapport avec les marchands chassés du temple, en disant que finalement c'était un signe prophétique pour décrire ce qui se passait au temple, où il y avait encore les feuilles, il y avait encore les apparences, mais il n'y avait plus de fruits, puisque tous ceux qui étaient dans le temple, eh bien, finalement, marchaient un peu pour eux-mêmes, finalement. Ils ne cherchaient plus tellement à honorer Dieu, mais à garder des places, à assurer un commerce, à garder une forme de notoriété publique, mais tout ça était intérieurement, en tout cas, déconnecté de ce pourquoi c'était fait, à savoir l'adoration et le culte, un peu comme ce figuier, là, qui a des feuilles, mais qui n'a plus de fruits. Nous étions aussi arrêtés à la caverne de brigands, citation de Jérémie, pour dire en tout cas que les brigands, c'est pas vraiment ceux qui faisaient de l'escroquerie financière, comme on aurait pu le penser avec l'évocation des marchands, mais c'était surtout ceux qui n'ont pas de parole, ceux qui sont doubles, et comme ces hommes du temple qui finalement, eh bien, extérieurement honorent Dieu, mais en fait à l'intérieur s'honorent eux-mêmes. Et puis, dans un deuxième temps, nous étions pas mal arrêtés sur la parabole des vignerons homicides, puisqu'elle est vraiment centrale, elle est vraiment très évocatrice, puisqu'elle retrace toute l'histoire du salut jusqu'à la mort du Seigneur qui est poussé hors de la vigne qui est Jérusalem et qui est mis à mort, lui, le Fils bien-aimé. Et donc, nous avions dit, voilà, qu'elle a annoncé, évidemment, ce qui allait se passer le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, donc c'est une parabole de croix et de gloire. Et puis nous avions dit aussi comment finalement elle se rattachait à ce que nous avions vu précédemment, les controverses avec les pharisiens, représentées par ces intendants qui finalement veulent tuer les envoyés du maître et même le fils bien-aimé, comment c'était en rapport aussi avec qui s'était passé au temple, finalement, ces hommes qui s'honorent eux-mêmes au lieu d'honorer Dieu, qui sont toujours tournés vers eux-mêmes, comme ces vignerons qui finalement ne sont tournés que vers eux-mêmes et ont oublié que la vigne leur venait d'un plus grand qu'eux, leur venait d'un maître, à qui ils avaient des hommages à rendre, à qui ils avaient des fruits à rendre. Et puis, comment cette parabole des vignerons homicides aussi rappelait les rameaux, puisque. Voilà, la citation que Jésus prend à la fin de la parabole, la pierre d'angle rejetée par les bâtisseurs, eh bien, elle vient du psaume 117, et donc ce psaume justement qui était le psaume des rameaux par excellence, avec les acclamations Hosanna et les pèlerins qui tiennent les rameaux dans leurs mains. Donc, il y avait cette idée que ce psaume était à la fois un psaume d'allégresse, hein, qui disait cette joie des pèlerins arrivant au temple, et puis il était aussi un psaume de croix, puisque la pierre, certes, elle sera la tête de l'angle, mais elle est aussi rejetée par les bâtisseurs. Donc, voilà, il y aurait beaucoup à dire encore sur cette parabole des vignerons homicides, mais j'espère que ces quelques mots vous auront rappelé le sens principal de ce que nous avions développé et comment aussi ça s'applique à nous-mêmes, c'est-à-dire que faisons-nous des dons de Dieu? Est-ce que nous nous recroquevillons sur les dons de Dieu? Est-ce que nous les considérons comme étant notre seule possession, alors les dons surnaturels, comme l'alliance, pour le cas des pharisiens, comme la grâce, mais aussi les dons naturels, tout ce que nous avons reçu de Dieu, est-ce que nous pensons à lui en rendre les fruits, comme de bons intendants, ou est-ce que, dans l'illusion, finalement, nous croyons que nous nous appartenons nous-mêmes, que notre vie se réduit aux horizons de la vigne, aux clôtures de la vigne, et puis qu'au-delà de la clôture, il n'y a rien, il n'y a pas ce maître à qui nous devons hommage. Voilà. Donc, évidemment, c'est aussi une question pour nous, cette parabole des vignerons homicides, que je vous avais invité d'ailleurs à relire, parce qu'elle est tellement riche qu'il faut la lire et la relire. Je fais aussi mon mea culpa sur les phylactères, parce que les phylactères, ce sont bien effectivement les petites boîtes que les juifs portent sur leur front, avec quelques morceaux de parchemin, et également sur leurs bras, donc c'est la lanière de cuir avec des inscriptions tirées de la parole de Dieu. Donc c'est effectivement, on l'avait rapidement vu la dernière fois, ce sont en hébreu les téphilim, et donc c'est devenu donc les phylactères. Voilà. Et les franges, ce sont les tzitzit, les franges que portent les juifs à l'époque et que portent encore les juifs ultra-orthodoxes qui dépassent les ficelles, qui dépassent de leurs vêtements, ce sont des tzitzit. Bon, ce ne sont pas des phylactères, ce sont des tzitzit. Et donc, ils les portent en rappel d'une parole de Dieu dans le livre des Nombres, qui est rappelé dans le Deutéronome, à savoir qu'il faudra se faire une frange aux quatre coins de son vêtement pour que, quand on regarde la frange, on pense au commandement de Dieu. Et donc, si vous voulez tout savoir, donc les juifs portent toujours ces franges sur leur châle de prière, parce qu'un châle, il y a des coins, plus que dans un t-shirt. Il est difficile de trouver un coin. Or, il faut que ces franges partent d'un coin, donc c'est pas toujours évident. Mais donc, ils portent ces franges sur leur châle, et les juifs ultra-orthodoxes portent sous leur vêtement civil un mini châle, un petit châle, et donc ça permet d'avoir des coins, donc ça permet d'avoir des franges. Donc les phylactères, c'est la boîte, et les tzitzit, ce sont les franges. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur le figuier, sur la vigne, sur la manière de tondre son jardin. Le temple. Et si vous n'avez pas de questions, nous continuons. Alors, peut-être avant de lire, vous allez voir en quelque sorte que le passage que nous lisons aujourd'hui, baisse d'intensité par rapport au paroxysme d'hostilité qu'on a vu dans les pages précédentes et par rapport à ce paroxysme d'hostilité qui est quand même le caractère homicide des vignerons qui tue le fils bien-aimé. Donc là, on en est vraiment à évoquer la mort de Jésus. On va voir que là, tout en restant dans la controverse et dans l'opposition, ça baisse un peu d'intensité. Et ça nous rappelle que la vie de Jésus n'est pas un film. Que la vie de Jésus, on ne passe pas de grande scène en grande scène, et que qui fait en quelque sorte des extraits coupés. Non, la vie de Jésus, c'est une vraie vie. Et donc, la semaine sainte de Jésus, même si c'est la dernière semaine du Christ, même si une partie de ses ennemis veulent déjà sa mort, mais c'est aussi une semaine où il a continué d'enseigner, il a continué de bénir, il a continué de manger, de dormir, de prier. Et donc, pendant cette semaine sainte, un peu comme pendant notre propre semaine sainte, il y a des moments de grande intensité, que sont les offices, et puis il y a des moments de plus faible intensité, parce que nous ne sommes pas des anges et nous continuons d'avoir notre vie quotidienne. Et bien là, c'est un petit peu pareil, il y a des moments de grande hostilité, des moments de grande intensité, et puis il y a des moments plus courants. Et donc nous allons lire ces passages qui, comme je vous le disais, sont quand même des controverses, sont quand même des oppositions, mais d'une plus faible intensité par rapport à ce qui vient de se passer. Donc je repars au chapitre 12, verset 12. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. On envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. » Mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit : Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une et Jésus leur dit : Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César, répondent-ils. Jésus leur dit : Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Peut-être s'arrêter là, peut-être qu'on va passer à une autre controverse. C'est un passage qui est bien connu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est même devenu proverbial, en quelque sorte, dans la langue quotidienne. Alors, par rapport aux épisodes précédents, on retrouve quand même cette idée de tendre un piège à Jésus. Vous vous en souvenez peut-être, la dernière fois, on l'avait déjà vu, qu'ils avaient essayé de tendre un piège à Jésus à travers la figure de Saint Jean-Baptiste. Et voilà, qui est Saint Jean-Baptiste, est-il de Dieu, des hommes, avait répondu le Christ. Là, on est apparemment moins dans un domaine religieux, on est dans un domaine plus politique. Faut-il payer l'impôt à César? Mais, dans un pays comme Israël, comme la Palestine, comme la Terre Sainte, où normalement le roi d'Israël, c'est Dieu, les questions politiques ont évidemment une incidence religieuse très forte. Donc, ne croyons pas que c'est juste de la politique. Mais, effectivement, c'est apparemment essentiellement politique. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Jésus est vraiment pris au piège. Parce qu'il y a des pharisiens et des partisans d'Hérode qui se concertent pour lui tendre un piège. Les partisans d'Hérode sont plutôt pro-romains. Donc Hérode a été remis en selle par les Romains, il se maintient au pouvoir par la bonne volonté de l'empereur, donc c'est sûr que ce ne sont pas eux qui seront en tête de la résistance. Donc eux seraient plutôt pour payer l'impôt à César. Les pharisiens, sans être non plus extrêmement virulents sur le plan politique, enfin, ceux qui sont virulents sur le plan politique, on les appelle les zélotes, donc eux, ce sont vraiment ceux qui mènent la guérilla contre l'empereur de Rome, qui veulent vraiment le départ des Romains. Les pharisiens ne sont pas à ce niveau-là, mais c'est sûr que les pharisiens ne sont pas de grands amis de l'empereur de Rome, un empereur qui se dit Dieu, qui est divinisé, un empereur païen. Évidemment, pour les pharisiens qui, eux, veulent vivre toute leur vie, apparemment en tout cas dans le culte du Dieu d'Israël, pas des grands amis de l'empereur. Vous voyez, le Christ est un peu pris entre l'arbre et l'écorce, puisque viennent à lui des personnes qui sont plutôt pour payer l'impôt à César, les partisans d'Hérode, et des personnes qui sont plutôt contre le fait de payer l'impôt à César. Surtout que, comme le Christ va le rappeler, sur les pièces, il y a la figure de l'empereur, cet empereur divinisé, cet empereur païen. Pour rappel, on ne peut pas payer au temple avec la monnaie impériale. C'est vrai qu'il y a des changeurs. Parce que, justement, la monnaie païenne, eh bien, elle est frappée de l'infamie du paganisme. Donc, pour acheter des animaux à offrir en sacrifice, bien, il faut changer et puis payer en monnaie du temple ensuite. Donc, pour dire voilà, toutes ces questions, c'est pas que de la politique. Ça dit aussi son rapport au Dieu unique, son rapport à la fidélité à Dieu en tant que roi d'Israël. Ça dit voilà, son rapport à la collaboration avec l'occupant païen. Or, le Christ semble vraiment apparemment pris au piège, puisque qu'il réponde oui, il faut payer. Il risque de se mettre à dos les pharisiens et puis toute la foule qui voit quand même lui en Jésus le Messie, et donc un Messie qui va venir libérer son peuple du joug des païens. Donc s'il dit oui, il faut payer l'impôt, il risque de perdre beaucoup de soutien, et les pharisiens attiseront en disant regardez, vous voyez, c'est un lâche, c'est un collaborateur, c'est un tiède, c'est pas le Messie, jamais le Messie ne paierait l'impôt à un empereur, ça. Et puis s'il dit qu'il ne faut pas payer, c'est les partisans d'Hérode qui risquent d'aller le dénoncer à l'autorité en disant il agite les foules, c'est un rebelle, c'est un révolté, arrêtez-le. Donc voilà, apparemment le Christ est pris au piège, mais comme vous savez, comme vous l'entendez bien, il se tire de ce piège de façon magistrale, en finalement voilà, en prenant la pièce et en disant bah, de qui est l'effigie de César, eh bien rendez à César ce qui était César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est une manière de sortir du piège évidemment par le haut, parce que à la fois il y a le respect légitime de l'autorité. Cette pièce, elle vous vient de Rome. Rome assure un certain nombre de services en terre sainte, donc il est légitime de payer cet impôt. Et en même temps, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire, mais en même temps, je reconnais eh bien, la suprématie de Dieu, puisque même César doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est une manière aussi de remettre César à sa place. César n'est pas Dieu, César n'est pas divinisé, mais César est une autorité. Et une autorité qu'on ne peut pas renverser comme ça, sans un autre projet politique. Et puis en revanche, ben, Dieu, lui, est au-dessus de tout ça. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et même César doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Même les partisans d'Hérode doivent rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc il y a dans cette réponse du Christ cette sagesse que l'on peut retrouver aussi, cette fulgurance, finalement, ces trouvailles vraiment inspirées qu'on peut retrouver dans des paroles de Sainte Jeanne d'Arc ou de Sainte Bernadette, par exemple, qui ne sont pas du tout docteurs d'université, mais qui ont cette sagesse divine de trouver eh bien les réponses justes, vraiment des réponses de l'Esprit-Saint, devant leurs contradicteurs. Évidemment, la différence, c'est que Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Bernadette sont plutôt des vases qui reçoivent cette sagesse, alors que le Christ, lui, est la source de cette sagesse. Donc, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose, le Christ est la sagesse humaine. Mais, alors, on peut retrouver dans cette parole pas cette fulgurance, cette inspiration qui cloue le bec de ceux qui veulent tendre des pièges par une réponse qui n'est pas beauté en touche, mais qui au contraire une lumière plus grande. Alors, je note juste deux choses, et puis après je vous laisse la parole. D'une part, notons quand même l'éloge que font ceux qui viennent voir le Christ, alors qui est un éloge évidemment un peu hypocrite, mais qui s'appuie quand même sans doute sur la réputation qu'avait Jésus, d'enseigner selon la vérité et de ne pas tenir compte de l'apparence, de ne pas juger les gens, de ne pas se comporter à l'égard des gens selon l'apparence, le rang social, etc. Donc, j'ai à travers l'hypocrisie, à travers bon, ce miel dont ils enrobent le venin de leur piège, il y a quand même sans doute quelque chose de profondément vrai qu'ils sont obligés de reconnaître, c'est cette, à la fois cette vérité du Christ et cette liberté du Christ à l'égard des apparences, du rang social et de tout ce qui peut, voilà, à nos yeux, parfois trop compter. Et puis la deuxième chose, c'est que cette phrase du Christ, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, bien, elle est fondatrice de ce qu'on a appelé la chrétienté. C'est-à-dire de ce rapport entre l'autorité religieuse et l'autorité politique, qui est un rapport de distinction des pouvoirs, qui n'est pas une séparation étanche entre le politique et le religieux, qui n'est pas non plus une confusion, comme si le politique devait se charger du religieux ou le religieux de tout le politique, mais qui est une distinction. Une distinction dans l'ordre, puisque, comme je disais, César doit aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc le politique doit aussi rendre au religieux ce qui est au religieux, puisque la finalité du politique est temporelle, alors que la finalité du religieux est éternelle, c'est une finalité plus grande de l'autorité religieuse par rapport à l'autorité politique. Mais cette phrase, dite en quelques mots, dite dans un contexte bien précis pour répondre au piège des pharisiens, elle a eu un retentissement, et là, d'une certaine manière encore, un retentissement bimillénaire dans l'histoire des sociétés, dans l'histoire des régimes politiques, dans l'histoire de la chrétienté. Parce qu'elle est profondément novatrice. Parce que cette distinction n'est pas de soi évidente. Vous voyez, dans les premiers temps d'Israël, quand il n'y a pas encore de roi, le roi d'Israël, c'est Dieu. Et donc, il n'y a pas tellement cette distinction entre le religieux et le politique. Celui qui marche à la tête de l'armée d'Israël, c'est Dieu. Celui qui trône à la tête du royaume d'Israël, c'est Dieu. Et ce qu'on appelle les juges ne sont que des hommes et des femmes providentiels que Dieu envoie pour être, en quelque sorte, sa bouche et ses mains. Mais ces juges ne sont pas, ne se transmettent pas un pouvoir héréditaire, justement pour montrer que Dieu prend qui il veut dans le royaume pour être son porte-parole. Et c'est Dieu qui est le roi. Donc là, on a vraiment une théocratie. Et à l'exact contraire, ce qu'on disait de l'empereur, l'empereur, lui, est divinisé. Donc à Rome, on a l'exact contraire. C'est pas Dieu qui est le roi et le religieux qui s'empare du politique, on a le politique qui s'empare du religieux. C'est-à-dire l'empereur qui se proclame membre de la famille des dieux et qui est en même temps qu'empereur, qui est souverain pontife et donc qui est aussi, qui a aussi une fonction sacerdotale. Donc, c'est pas évident, cette phrase du Christ, elle est profondément novatrice et elle va ouvrir petit à petit un régime politique par la chrétienté qui est original dans cette distinction des pouvoirs. Et notre terrible laïcité est une espèce de fille devenue folle de cette chrétienté. Puisque là, on a tellement distingué qu'on en est venu à séparer. Mais tous les tenants de la laïcité qui n'ont pas de mots assez venimeux contre l'Église oublient qu'en fait, s'ils sont laïcs, c'est parce qu'ils viennent de la chrétienté. En fait. Il y a beaucoup moins de laïcs en Arabie Saoudite. Et même et s'il y a beaucoup de laïcs en Israël, c'est parce qu'ils sont passés par cette grande machine de la chrétienté pendant des siècles et qu'ils sont revenus ensuite en Israël. Mais les juifs laïcs sont plus une résurgence finalement de l'Europe que d'Israël lui-même. Donc là, pour dire comme cette phrase, elle est absolument fondatrice. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce passage, sur ce que je viens de dire. Donner une consigne de vote pour les élections du dimanche. Oui, parce que là, c'est le maître rabbi, c'est-à-dire c'est pas le maître seigneur, c'est le maître d'enseignement. Et c'est un titre quand même... Il y a toute l'obséquiosité du passage, où ils en rajoutent quand même dans les qualités, dans l'éloge. Donc ça va bien... c'est bien en harmonie avec le passage, c'est-à-dire de lui donner un titre un peu honorifique pour le flatter et pour mieux le l'attirer dans le piège. Mais après, voilà, ce titre de rabbi, c'est pas non plus... pas non plus votre sainteté. Quoi. Tout le monde reconnaît, au bout de 3 ans, que le Christ a des disciples. Donc, même si ça ne leur plaît pas, le fait de drainer comme ça des foules, d'enseigner, d'avoir des disciples, lui donne, je pense, ipso facto, le droit, entre guillemets, à se faire appeler rabbi. Mais c'est sûr que ça doit un peu leur brûler les lèvres, quand même, comme ils le disent. Parce que,
c'est
une hypocrisie, ce qu'il veut dire après. Oui. Mais je veux dire, c'est pas. Je pense pas que les foules se soient retournées en disant vous avez vu, les pharisiens l'appellent rabbi, quel changement, etc. Je pense pas. Mais c'est sûr que pour eux, ça a dû être un peu douloureux. Pas de question sur César, Dieu. Alors, je fais juste un tout petit aparté, parce que je l'entends régulièrement, donc je fais un petit aparté. Souvent, on parle de la séparation des églises et de l'État, donc c'est quand même plutôt la séparation de l'église et de l'État en 1905, comme une loi libératrice. En disant, ah oui, mais maintenant l'église est beaucoup plus libre de dire ce qu'elle veut, etc. Alors déjà, ça faudrait le prouver, parce que ça ne me paraît pas évident dans les déclarations épiscopales, qu'elle soit totalement libre. Et on dit aussi, ah oui, mais regardez, l'État a pris toutes les églises pour s'en occuper, c'est quand même beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces églises où on trouverait l'argent pour s'en occuper? Alors, il faut quand même signaler que tout en volant les églises, l'État a aussi volé les ressources qui permettaient de s'en occuper, ce qui permet de remettre un peu en perspective cet aspect profondément libérateur de cette gigantesque spoliation. C'est-à-dire que entre 1789 et 1905, l'État a quand même volé deux, voire trois fois l'Église, puisqu'il y a eu aussi la spoliation des biens des religieux donc au XIXe siècle. Donc, et en volant les églises, ils ont aussi volé les bois, les domaines, les vignes, voilà, tout ce patrimoine agricole qui permettait de faire vivre les églises. Puisque au Moyen-Âge, par exemple, quand un seigneur veut établir une abbaye, il ne donne pas seulement le terrain pour construire l'abbaye, il lie à cette abbaye un certain nombre de terres, de vignobles, de forêts, un certain nombre de sources de ressources qui permettront ensuite à l'abbaye de vivre. Donc cet aspect de dire, mais heureusement que la mairie de Besançon est propriétaire des églises, baisons les pieds de M. Fouffray parce qu'on ne saurait pas quoi en faire, me paraît oublier en fait la moitié de l'histoire. C'est-à-dire que, évidemment, quand... Si je vous vole votre compte en banque et votre maison, vous serez peut-être content ensuite que je vous dise, mais revenez chez vous, je vous laisse royalement une chambre chez vous. Mais c'est sûr que si je vous ai volé toutes vos ressources par ailleurs...
Les églises, après la séparation de l'État, n'appartiennent pas à la nation.
Non, alors les églises construites après 1905, elles appartiennent au diocèse. Oui, alors effectivement, à Besançon, il y a beaucoup d'églises en fait qui appartiennent au diocèse, parce qu'il y a une grande... comme la ville s'est étendue aussi, il y a beaucoup d'églises, comme le Sacré-Cœur, donc Saint-Philippe, Saint-Joseph, donc effectivement Saint-François d'Assise à Sanoise, Saint-Jean-Bosco, aux femmes du foyer...
La moitié de Saint-Martin.
Oui, alors,
il y a une église avant 1905 qui a été allongée après.
C'est pas qu'il y a son statut du coup.
Je pense que c'est pour ça qu'il est bloqué, les travaux de Pinot. Je ne sais pas qui doit payer. C'est un gendarme, il a coché. Ça va
je crois que la mairie n'est pas très passionnée par cette église aussi. Hein. C'est aussi pour ça que c'est bloqué. C'est que, ça, comme elle n'a pas d'argument architectural à faire valoir, la mairie ne met pas tellement d'argent. Je pense que c'est ça aussi.
Ils ne mettent pas beaucoup d'argent dans aucune église.
Ah, ils mettent 3 millions dans Saint-Pierre quand même.
Ouais, c'est encore pas
fait. C'est normal, ça a été voté au conseil municipal.
Ah oui, ça a voté.
Bon, et honnêtement, alors pour le coup, à la Madeleine, ils ont mis énormément d'argent. Le toit, l'orgue, la façade. Après, bon, proportionnellement, je ne sais pas.
Avec
d'autres impôts. Oui, mais bon. tout est avec, tout est avec nos impôts. Oui, c'est sûr que l'argent ne sort pas de... pas un puits de pétrole, mais disons, nos impôts, là, en l'occurrence, ont été réorientés vers la Madeleine de façon, je pense, voilà, dont on n'a pas tellement à souffler, je pense. Même si l'intérieur n'est pas flambant neuf, mais c'est quand même plutôt en bon état.
On aurait pu ne pas faire le FAC.
Continuons. Verset 18. Des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme et aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. C'est ce qu'on appelle le Lévira, une des lois les plus anciennes de l'Ancien Testament. Si un homme a une femme, mais il n'a pas d'enfant, eh bien son frère, tant qu'il n'est pas de femme, épousera sa femme et son espère aura un enfant qui sera plus l'enfant du mort que l'enfant du vivant. Ce sera si c'est, c'est au vivant, de susciter une descendance pour son frère. Cette loi étant extrêmement importante, je continue, hein, dans les tout premiers temps de l'Ancien Testament, quand l'idée de résurrection des morts n'est pas clairement en lumière. Cette idée de, d'une vie éternelle bienheureuse n'est pas du tout évidente pour les premières générations d'Israélites, et même elle ne sera pleinement évidente que, on va dire, après l'exil à Babylone. Donc c'est après l'exil, donc l'exil 587, le retour à peu près 510. Donc, et elle ne sera vraiment très clairement exprimée que dans le livre de la sagesse qui est du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez que cette idée qui nous paraît absolument centrale dans notre religion, qui nous paraît absolument évidente, enfin elle est évidente parce que le Christ est ressuscité, et que la résurrection du Christ et son entrée dans la gloire est le cœur de la foi chrétienne. Mais donc il faut bien se mettre en perspective, pendant des siècles et des siècles, pour les Juifs, cette idée de résurrection des morts n'est absolument pas évidente. Alors, ils croient à une vie dans l'au-delà, mais une vie qui est une demi-vie, une vie d'ombre, une vie un peu fantomatique, dans le Sheol. On est une ombre. On est une espèce de royaume des morts. Alors, de ce fait-là, ça a beaucoup d'implications, et notamment celle qu'on survit de la façon la plus glorieuse dans ses descendants. Et donc, si on n'a pas de descendants qui pourront vous nommer en disant qu'ils sont Moïse, fils de Ruben, eh bien, si Ruben n'a pas de fils, eh bien, s'il n'y a pas de généalogie où il apparaît, eh bien, il va disparaître. Il va disparaître de la terre des vivants. Et il n'aura qu'une demi-vie dans le royaume des morts. Alors, bon, tout ça, évidemment, est très loin de notre perspective chrétienne, mais il faut se remettre dans cette idée-là. Et donc comprendre à quel point c'est important d'avoir une descendance. Donc à quel point, on le sait bien, la stérilité, le fait de ne pas avoir d'enfant, est vécu comme vraiment une profonde malédiction pour ces gens-là. Donc Abraham et Sarah, Anne, la mère de Samuel, on voit bien combien c'est une peine, parce que si on n'a pas de descendance, on va disparaître. Enfin, évidemment, nous, dans notre perspective, c'est totalement différent, mais c'est leur perspective. Et donc, voilà, si un homme n'a pas eu d'enfant, eh bien, son frère se retroussera les manches, ira voir sa belle-sœur et fera son office pour lui succéder une descendance. C'est tribal. Mais la descendance du vivant sera plus la descendance du mort que la sienne. Ce qui peut expliquer aussi la différence de généalogie de Jésus. Il n'y a pas toujours les mêmes noms entre la généalogie chez Saint Matthieu et celle chez Saint Luc. Il n'y a pas toujours les mêmes noms parce que on peut avoir deux pères. On peut avoir le père selon la chair, celui qui nous a vraiment conçus, et le père selon la loi, c'est-à-dire celui qui est mort, mais qui est quand même réputé le père parce que son frangin lui a suscité une descendance. Et donc il est nommé dans la généalogie. Donc, il pouvait y avoir comme ça la généalogie réelle et la généalogie légale, d'où différents noms. Donc, Maître Moïse nous a précisé, hein, je ne vais pas le dire. Donc, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement, et aucun des sept ne laissa de descendance. Et en dernier, après le tous, la femme, qui devait bien fatiguée, mourut aussi. À la résurrection, elle est de bonne santé parce qu'elle a survécu la mauvaise. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eu pour épouse? Alors, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que les Sadducéens, donc là, on a eu juste avant les Pharisiens. Donc, les Pharisiens, ce sont ceux qui sont attachés à la loi, dont le lieu propre et la synagogue, qui est le lieu où on lit, on écoute, on commente la loi, donc ça c'est les pharisiens. Il y a eu les partisans d'Hérode qu'on appelle les Hérodiens, donc eux ils n'ont pas vraiment de conviction religieuse, c'est plutôt des politiques. Et on a les Sadducéens, donc deuxième groupe, très important. Les Sadducéens, eux, ce sont plutôt les hommes du temple, les hommes de Sadoc, c'est le prêtre. Donc ce sont les prêtres, les grands prêtres, ceux qui servent au temple et qui sont plutôt proches des Romains. Et les Sadducéens ont cette caractéristique qu'ils reconnaissent comme vraiment canoniques, comme vraiment inspirés par Dieu, uniquement les tout premiers livres de la Bible. Autant les pharisiens voilà, ont une Bible qui correspond à peu près à notre Ancien Testament, donc avec beaucoup de livres, avec les premiers livres, mais aussi les livres des prophètes, les livres de sagesse, les psaumes, des livres historiques, tout notre Ancien Testament. Les sadducéens, eux, tiennent pour inspirer uniquement les cinq premiers livres, ce qu'on appelle la Torah ou le Pentateuque. Or, je vous l'ai dit, dans la Torah, eh bien, il y a peu de mentions de la résurrection. Donc, ce qu'on a dit, ils affirment qu'il n'y a pas de résurrection. Parce qu'ils disent, ben nous, dans les cinq premiers livres, on ne voit pas d'affirmation claire disant qu'il y a une vie comme ça, glorieuse, joyeuse, après la mort. Donc, on ne pense pas qu'il y a une résurrection. Jésus, lui, est considéré comme croyant à la résurrection, puisqu'il cite des livres qui sont au-delà de la Torah, il parle du royaume des cieux, il parle de la vie après la mort, puisqu'il dit, voilà, vous aurez le centuple en cette vie et la vie éternelle. Donc Jésus, lui, est classé par les Sadducéens comme un adversaire théologique, qui croit à la vie éternelle, qui croit à la résurrection. Donc ils vont essayer de le coincer. Et le coince donc avec cet exemple, en disant, bah, toi qui crois à la résurrection, bah, explique-nous alors, comment cette loi de Dieu, qui elle est vraiment elle dans le Pentateuque, cette loi du Lévirat, comment Dieu aurait pu demander ça alors qu'il va y avoir embouteillage dans la vie éternelle. S'il y avait une vie éternelle, parce qu'il y aura une femme et puis autour sept hommes qui vont se la disputer dans le ciel. Donc lui, il dit, bah, non, c'est la preuve que après la mort, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de résurrection. Sinon, comment expliquer cette loi du Lévira, comment expliquer cette situation UBF où, dans le ciel, bah, on pourrait tirer au sort quel est le mari de cette femme. Vous voyez, c'est ça l'argumentation des Sadducéens. De dire, là,
comment on retourne nos affaires
aussi. Comment ils vont se croiser, ah, tiens, c'est ma femme, mais non, c'est la mienne là-bas, là, c'est la mienne. Et cette frangeur sur un banc, là, salut ma femme, Okay, moi je lui en premier. Ah, mais moi, elle a vécu 10 ans avec moi, elle a vécu 3 ans, Puis elle a dit des mecs, elle était pas heureuse avec toi. Donc les Sadducéens jouent là-dessus en disant, il y a un truc qui est béton, c'est le Lévirat, c'est dans le Pentateuque, et on voit pas comment c'est conciliable avec ce que vous dites, la résurrection, dont on trouve pas de traces dans le Pentateuque.
À la réincarnation,
mais à
notre vie, en fait.
Alors, eux, ils croient au Sheol, je pense, c'est des traductions.
Le Sheol,
ce
n'est pas une vie équivalente.
Non.
Donc, pourquoi ils se posent la question?
De quoi?
C'est pourquoi c'est Jésus.
En fait, ils il se posent une question à laquelle ils ne croient pas, en fait.
Ah non, c'est pour montrer à Jésus que sa position est absurde. De dire, toi qui crois à une vie éternelle bienheureuse, où on sera vraiment des vraies personnes, etc., comment peux-tu croire à cette vie, puisque là on te montre un cas qui rend insoluble la. C'est quoi ? Parce que dans le Sheol, comme on est tous des fantômes, enfin fantômes entre guillemets, bon. On est 7 maris, 8 maris, de toute façon on est une ombre qui passe. Alors, la question là, ne se pose pas tellement d'avoir un mari.
C'est aussi la question, comment, à quel âge on sera, comment on sera présenté à 50 ans, à 20 ans, à 30 ans, est-ce qu'un bébé qui meurt au bout de quelques heures, ou un fœtus, voire... C'est vrai que
c'est difficile
parfois.
Ah oui, c'est bien sûr difficile à imaginer, oui. Parce que
les gens qui qui naissent malheureusement estropiés, qui n'ont plus les mains, comme on en parle bien plus de profit. Ils vont ressusciter éternellement sans main.
Non.
Je voulais quand même aussi des questions. Hein. C'est une chose que parfois le fait que, parce que je dis, c'est dur par.
Ah ben, bien sûr, c'est difficile à imaginer parce que c'est un monde qui est quand même radicalement différent du nôtre, puisque c'est le monde de Dieu. Donc c'est sûr que c'est un monde dans lequel nos repères d'espace, de temps seront totalement transfigurés. Et le fait que les apôtres et les saintes femmes ne reconnaissent pas Jésus ressuscité d'emblée, mais qu'il faille souvent une parole ou un geste de Jésus pour les introduire dans la foi, montre qu'il y a, cet écart. Enfin, Jésus ressuscité n'est pas reconnu parce que il ne fait plus partie de notre monde comme il en faisait partie avant la Passion et avant la Résurrection. Donc il y a effectivement cet écart, et je trouve qu'on peut prendre cette image que m'avait donnée mon père spirituel du bébé qui est dans le ventre de sa mère par rapport à la vie une fois l'accouchement réalisé, c'est l'entrée dans un monde et dans une vie radicalement nouvelle. Et ce bébé, on ne peut pas tellement lui parler, mais si on essayait, s'il avait une conscience et qu'on essaie de lui décrire ce qu'il va vivre une fois sorti, sans doute que ça n'éveillerait pas grand-chose, parce que lui qui va être dans l'utérus, pris dans le liquide, etc., si on lui dit, il y aura un soleil, il y aura de la lumière, il y aura du bruit, il y aura de la verdure, etc., ça n'éveillerait pas grand-chose pour lui. Donc, et pourtant, malgré toutes ces différences, eh bien, le bébé qui sort du ventre de sa mère arrive à vivre dans ce monde. Et donc, pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup d'inconnus, et en même temps, le ciel, nous sommes faits pour le ciel. Et donc, nous arrivons à vivre dans le ciel. Alors après, l'Église, sans donner toutes les réponses, parce que de toute façon, c'est pas possible de donner toutes les réponses, parce qu'on n'en a pas l'expérience concrète. Les apôtres ont eu une forme d'expérience à travers Jésus ressuscité, mais enfin, ça reste quelque chose d'assez incommunicable. Malgré tout, l'Église, sans donner toutes les réponses, donne un certain nombre de réponses. En disant que nous ressusciterons avec notre vrai corps, donc on ne nous donnera pas un autre corps, ce sera notre corps. Ce sera un corps transfiguré, ce sera un corps glorieux, donc il sera débarrassé de ses infirmités. Donc on ressusciterait des mains, si on n'a pas de mains. Donc ce sera un corps débarrassé de ses infirmités, ce sera un corps agile, donc ce sera un corps relativement léger, comme le corps du Christ qui peut rentrer dans le cénacle sans passer par la porte, donc c'est un corps qui sera libéré des contingences d'espace, de temps, mais ce sera pour autant un vrai corps. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que ce sera un corps radicalement nouveau, parce qu'il aura des propriétés nouvelles. Il ne faut pas dire que ce sera notre corps terrestre avec ses infirmités terrestres, mais ce sera notre corps terrestre avec les propriétés nouvelles que lui donnera l'entrée dans le monde de Dieu.
Il ne faut pas transposer la vie terrestre en éternité.
Non.
On pourra, si on a un corps comme maintenant, il faudra manger, il faudra boire, il faudra être...
Le Christ, après sa résurrection, ne mange pas parce qu'il a besoin de manger. Il mange pour offrir un espace de communion, pour offrir un moment d'intimité avec ses apôtres. Mais en tant que tel, il n'a plus besoin de manger.
Il a
notre
temps de rester
existé. Puisqu'on participera à l'éternel présent de Dieu. On sera dans cet éternel présent auquel on participera. Donc il n'y aura plus de succession. Ça désigne d'abord un état, parce qu'effectivement, le ciel, ça désigne d'abord cet état de communion parfaite et définitive avec Dieu qui nous rendra pleinement heureux. Et d'une certaine manière, ce sera un lieu à partir du moment où les corps ressusciteront, puisque les corps resteront quand même localisés. C'est quand même le propre d'un corps, même d'un corps glorieux, d'être localisé. Même s'il est plus soumis aux contraintes d'espace comme le nôtre, voilà, si je suis là, si je suis là dans la table, je ne traverse pas. Quoi. Donc, il y a quand même un certain nombre de contraintes. Oui, mais enfin, disons, voilà, un corps glorieux, ça ne devient pas une espèce de chose filandreuse qui va se dissoudre dans l'espace. Quoi. Un corps glorieux, le Christ, quand son corps glorieux est au Cénacle, et qu'il apparaît à ses apôtres, on peut imaginer que son corps glorieux n'est pas en même temps ailleurs. Quoi. C'est, parce que c'est, ça reste quand même un corps, donc un corps forcément est dans un lieu. Donc c'est d'abord un état, mais ce sera secondairement, on va dire, un lieu.
Et Torah et les temples de Dieu,
c'est la même chose, hein. C'est les cinq premiers livres de la Bible. Non, non, la plupart, oui, ils prennent les psaumes, les prophètes. Après, il y a quelques livres que les juifs ne prennent pas et que nous avons, qui sont en fait des livres dont sans doute l'original a été rédigé en grec. Et, donc, par exemple, le livre de la sagesse, là. Et, donc, ils sont des livres venus plutôt de la diaspora, donc des juifs qui sont sortis d'Israël. Et donc ces livres-là ne sont pas regardés comme canoniques par les juifs actuellement, alors qu'ils l'étaient par les juifs du temps de Jésus. Mais il y a eu un petit travail aussi de purge, on va dire, puisqu'il y a eu un synode à Yamna, je crois, qui s'est réuni donc à la fin du 1er siècle, me semble-t-il, au début du 2e siècle, dans lequel les rabbins ont précisé quels étaient leurs livres canoniques, mais ils ont expurgé tout ce qui était trop, tout ce qui s'accomplissait trop en Jésus de Nazareth. Donc, là, il y a une purge au passage. Donc, là, c'est aussi pour ça que les juifs d'aujourd'hui n'ont pas forcément tout à fait la même liste canonique que les juifs du temps de Jésus.
C'est un peu comme si
nous que l'Ancien Testament, c'est comme occulté. Oui, alors même je pense qu'ils ont fait une petite purge dans les livres de l'Ancien Testament sur les prophéties. C'est autre chose, oui. Lui n'est pas un livre inspiré par Dieu, mais qui est en plus un commentaire de la loi. Et c'est dans le Talmud qu'on trouve les paroles les plus blasphématoires sur la Sainte Vierge et le Christ. Ouais. Et de ce point de vue-là, le Talmud est plus blasphématoire que le Coran. Même si le Coran nie la divinité du Christ, qui est évidemment au cœur de notre foi chrétienne, donc c'est une attaque au cœur, mais il y a une forme de respect quand même pour Marie, mère de Jésus, et pour Jésus, qu'il n'y a pas dans le Talmud, où on présente Jésus comme le fils d'un rapport adultère, et Marie comme une femme de mauvaise vie. C'est pas. Ça être naïf, quoi. Les juifs pieux qui lisent le Talmud sont nourris aussi de cette dialectique violemment anti-chrétienne. Ce qui peut expliquer que lors du Moyen Âge en Terre Sainte, les juifs ultra-orthodoxes sont plus hostiles à l'égard des chrétiens que les musulmans. Parce que pour eux, c'est vraiment c'est viscéral, parce que c'est pas seulement Jésus n'est pas le fils de Dieu, c'est Jésus est un imposteur.
C'est les juifs persistent.
Exactement. qui ont disparu.
Oui,
ouais,
du
vendredi. Du
vendredi.
Non, non.
Parce que dans l'office du vendredi soir, l'office du soir, à un moment, le prêtre en chape prie ce qu'on appelle les grandes oraisons. Oraisons, c'est pour les chrétiens. Et donc, il y a neuf, je crois, grandes oraisons. Il y en a une pour les juifs, et jusque dans les années 60, on disait Oremus pro perfidis judeis, nous prions pour les juifs perfides.
Vous avez compris, alors que pour nous, perfide, ça veut dire
perdu la foi, c'est pas une
voilà, vous avez compris.
c'est la lecture bienveillante, je pense. Mais, c'est un peu à double tranchant quand même. Que vu dans l'oraison, on rappelait la perfidie des juifs. Oui, alors, je pense que étymologiquement, c'est traître à la fois. Je pense qu'il y avait aussi un peu plus que ça, mais. Après, ce qu'il faut bien voir aussi dans cette affaire des juifs perfides, c'est qu'il y avait un effet de balancier aussi entre le vendredi saint où on parlait des juifs perfides. Le jour de la passion du Christ, et la vigile pascale, où on parlait de la dignité israélite, donc parce que dans la vigile pascale, on retraçait toute l'histoire du salut, donc on reprenait la Genèse, les prophètes, les juifs sortant d'Égypte lorsqu'on chante l'exultète, donc il y avait cet effet de balancier, il y avait ce parallèle qui était fait entre les juifs de l'Ancien Testament dont les chrétiens sont héritiers, et là on parlait voilà, de la dignité israélite, donc c'est de demander à Dieu de rester dans cette dignité des enfants d'Israël, les premiers appelés, et puis le vendredi saint qui pointait au contraire le fait que les juifs qui ont demandé la mort du Christ, genre, n'ont pas été fidèles à toutes ces promesses, à tout cet héritage, à toute cette alliance, et donc ils ont trahi la foi. Donc il y avait, faut aussi nuancer cette appellation de juif perfide, mais qui, à mon avis, elle avait plus que juste juif déloyal ou infidèle à la foi, je pense qu'il y avait un peu plus que ça, mais c'était contrebalancé par les oraisons de la vigile pascale, qu'on a d'ailleurs toujours dans la forme extraordinaire, et qui, eux, mettent en avant cette dignité des fils d'Israël. Tenir les deux bouts de la chaîne. Bon, alors bien du mal à arriver au bout de la réponse. Donc Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse? Donc habilement, Jésus évidemment cite l'Exode, parce que sinon, s'il cite le livre de la sagesse, ça ne va pas beaucoup convaincre les Sadducéens qui ne le reconnaissent pas. Donc, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au récit du buisson ardent comment Dieu lui a dit « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. » C'est clair. Alors, bon, peut-être que ce passage suscite beaucoup de questions en vous. J'en dis deux, trois petits mots. Tout d'abord, on ne prend ni femme ni mari, on est comme les anges dans les cieux. Alors, il faut bien comprendre cette phrase-là. Le Christ ne dit pas qu'il n'y a pas de résurrection des corps. Le Christ dit simplement que au ciel, on ne prend pas de femme ou de mari. C'est-à-dire qu'au ciel, on ne se marie pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de corps. Ça ne veut pas dire non plus que, pour les personnes dans cette salle qui sont mariées, quand vous vous retrouverez au ciel, ce que j'espère pour vous, vous allez vous croiser comme deux parfaits inconnus. Tiens, ce mec, je l'ai connu, lui, pendant la vie sur la terre. Sa tête me dit quelque chose. Ça ne veut pas dire ça. Donc, évidemment que dans le ciel, on ne devient pas amnésique. Évidemment que dans le ciel, aucun acte d'amour ne se perd, donc tout ce que l'on aura vécu dans l'amour, dans la charité, tout cela perdure dans le ciel. Parce que qu'on garde la mémoire et puis que Dieu honore justement cette charité qui, nous l'espérons, aurait été à l'œuvre dans les relations conjugales. Donc tout ça n'est pas perdu. En revanche, voilà, on quitte le régime terrestre du renouvellement des générations et de l'accroissement du nombre des élus. Voilà. Au jour du jugement dernier, et à partir du jour où nous aussi on rentre dans le ciel, eh bien, on arrête de participer à ce renouvellement des générations et à cet accroissement du nombre des élus, qui sera définitivement clos au dernier jour. Donc, au ciel, on ne se marie pas parce qu'on n'aura pas de relation sexuelle, parce qu'il n'y aura pas nécessité de continuer à procréer. Et on n'aura pas de relation sexuelle parce que les relations sexuelles et l'union conjugale, de façon plus générale, sont d'une certaine manière l'image de l'amour de Dieu époux pour son peuple qui est comme son épouse, de l'amour du Christ époux pour son Église qui est l'épouse, et donc, je dirais, l'image, eh bien, d'une certaine manière, s'agenouillera en quelque sorte devant la réalité qu'elle a signifiée, et donc notre cœur sera pleinement comblé par cet amour de Dieu époux pour son Église, pour la grande communion de tous les saints qui sera comme son épouse. Donc, voilà, on ne vivra plus des relations conjugales parce que finalement, le signe sera arrivé devant sa réalité. Mais je dirais, c'est pas pour jeter quelques doutes ou quelques discrédits sur l'union conjugale parce qu'on dit la même chose de la messe. Au ciel, on ne célèbre plus la messe. Parce que la messe, c'est justement la promesse, c'est le signe sacramentel de cette union de Dieu et de l'homme. Et comme cette union sera sans voile, eh bien, voilà, le voile de l'Eucharistie n'aura plus lieu d'être dans le ciel. Donc, vous voyez, il y a tout un... beaucoup de réalités qui constituent notre vie ne seront plus les mêmes ou ne seront plus vécues de la même manière dans le ciel. Non pas parce que ces réalités-là, elles seraient un peu terrestres, elles seraient un peu bizarres, elles seraient un peu objet de soupçons et de doutes, pas du tout, mais c'est qu'elles sont les signes d'une réalité plus grande qui est l'union de Dieu et des élus dans le ciel, et que lorsqu'on pénètre dans la réalité, eh bien, le signe, vous disiez, s'agenouille devant la réalité et, d'une certaine manière, recule d'un temps. Donc, ce que le Christ veut dire dans cette phrase, ça ne veut pas dire donc que... on s'ignorera entre mari et femme, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de corps, mais ça veut dire qu'on ne continuera pas à se marier, parce que le nombre des élus sera terminé, sera fixé, et puis ça veut dire que le mariage, les relations sexuelles, qui sont image, comme dit saint Paul, de l'amour du Christ et de l'Église, eh bien, se mettront... au service de la réalité qu'elles signifiaient, et donc elles reculeront d'un temps, en quelque sorte, pour laisser place, eh bien, à la réalité définitive, qui est l'union du Christ et de ses élus. Ça va?
Imaginer qu'il puisse
Ça plutôt bien que ça s'arrête un moment, mais...
Il y a des plusieurs solutions,
je peux dire que vous n'avez pas directement accès. Ah, j'espère, je suis loin, mais j'espère, mais... Bon, après, oui, il y a une fécondité, parce que, vous savez, on dit que les anges, même qui n'ont pas de corps, s'illuminent les uns les autres, et donc c'est une forme de fécondité, c'est-à-dire que les anges les plus saints, en quelque sorte, les plus proches de Dieu, eh bien, illuminent.